soir, le chef de bureau OCHA dans la province du Katanga affirme que cette province frôle une catastrophe humanitaire. Selon lui, le nombre de déplacés dans cette province est passé de 55 000 en 2011 à plus de 400 000 de nos jours. Ce qui fait du Katanga la province ayant enregistré la plus forte progression des personnes déplacées internes en RDC en 2 ans. Quelle lecture faire de cette situation et que faire pour y remédier? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, nous recevons comme invité Charles Naoué Jimundele, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale du gouvernement central. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Jacques Ouondo, analyste politique et expert en questions militaires. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC ». Monsieur Ouondo, bonsoir.
Bonsoir Monsieur Alain Roux, bonsoir Monsieur le ministre et bonsoir à tous les auditeurs de la ville.
Raymond Muyumba Maïla, opérateur politique de l'opposition au Katanga. Monsieur Muyumba, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La situation humanitaire et même nutritionnelle est alarmante dans la province du Katanga. C'est le chef de bureau OCHA dans cette province qui tire la sonnette d'alarme. Amani Seydou affirme que le Katanga frôle une catastrophe humanitaire. Selon lui, le nombre de déplacés dans cette province est passé de 55 000 en 2011 à plus de 400 000 de nos jours. Ce qui fait du Katanga la province ayant enregistré la plus forte progression des personnes déplacées internes en RDC en 2 ans. On l'écoute au micro de Jean-Pierre Elali Koko.
Cela est dit à l'activisme des combattants Maïmaï dans plusieurs territoires suite à des exactions commises ici et là, suite à des villages qui sont incendiés également ici et là, surtout ces derniers 3 mois. Ce sont là les causes de ces déplacements. Le Katanga, par exemple, fait aussi face à une crise nutritionnelle. Donc, il ne faut pas seulement parler de la crise liée au conflit. D'après le rapport final du 10e cycle d'analyse du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire en RDC de décembre 2013. 1 628 000 personnes au Katanga sont en insécurité alimentaire. Ces gens-là ont besoin d'une assistance alimentaire et agricole d'urgence.
Charles Naoueji Mundele, je rappelle que vous êtes ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale du gouvernement central. Monsieur le ministre, comment vous analysez cette situation?
Merci pour la question. Je pense que la situation du Katanga est une situation connue. Les causes, je ne vais pas répéter puisque tout à l'heure le chef de bureau de OCHA vient de relever le cause de cette situation. Il est important pour nous en tant que gouvernement de voir comment nous allons nous atteler pour soulager tant soit peu les populations qui sont frappées par le sinistre qui se profile au niveau du Katanga.
Alors en parlant de l'action gouvernementale, nous allons prendre cette réaction qui nous vient de Lubumbashi au Katanga pour vous, Monsieur le Ministre.
Placide Mutombo, à partir de Lubumbashi au Katanga, il n'est pas du tout responsable de la part du gouvernement d'avoir laissé pourrir ainsi la situation des déplacés au nord Katanga. En 2011, il y avait 55 000 déplacés et aujourd'hui nous sommes à 420 000 déplacés. De 2011 à ce jour, qu'a fait le gouvernement pour remédier à la situation? Et pourquoi n'attaque-t-on pas le mal à la racine? Je crois que le gouvernement a beaucoup tergiversé sur cette histoire de Maïmaï Bakatakatanga qui est la cause de cette situation catastrophique qui se vit au nord Katanga.
Monsieur le ministre, réaction, qu'est-ce que vous lui répondez?
Je remercie notre compatriote qui vient d'intervenir, mais je ne pense pas que le gouvernement a laissé pourrir la situation. Comme vous le savez, l'activisme de groupes armés ne concerne pas seulement la province du Katanga. Le gouvernement était confronté à plusieurs crises armées. Il y avait des crises au nord Kivu, au sud Kivu, dans la province orientale, ainsi qu'au Katanga. Eh bien, l'armée faisait face à toutes ces situations et il était difficile, pendant que les forces armées sont en train d'intervenir, d'organiser aussi au même moment l'assistance humanitaire. Et il ne faut pas oublier non plus que, en ce qui concerne particulièrement le Katanga, quand le gouvernement a voulu résoudre le problème de Bakatakatanga par la force, la grande majorité des ressortissants du Katanga ont estimé que ces problèmes pouvaient être résolus par le dialogue. Et je sais que nous nous sommes rendus plusieurs fois en mission gouvernementale au niveau du Katanga, et tous les leaders proposaient à ce qu'on puisse passer par la sensibilisation pour démobiliser les jeunes qui s'enrôlaient dans ces groupes armés. Évidemment, le gouvernement a préféré donner d'abord la place au dialogue, et c'est quand on s'est rendu compte que le dialogue risquait de ne pas produire des résultats que nous allons maintenant passer par l'offensive militaire.
Alors, Monsieur le Ministre, concrètement sur le plan humanitaire, qu'est-ce que le gouvernement a fait jusqu'à ce jour?
Je crois que le gouvernement a beaucoup fait en termes d'assistance, puisque moi-même je me suis rendu plus de 2 fois dans l'axe Mitwaba, je suis allé plus de 3 fois à Malembankulu, à Kalemi, ainsi qu'à Kasungeji, à Pweto. Donc le gouvernement a dû apporter beaucoup d'assistance au niveau des populations qui étaient touchées. Et il ne faut pas oublier que dans l'assistance humanitaire, nous avons la collaboration de nos partenaires humanitaires. Puisque souvent, on a tendance à dissocier ce que font les partenaires humanitaires avec ce que fait le gouvernement. Je tiens quand même à rappeler à nos compatriotes que l'assistance humanitaire internationale vient pour appuyer l'action du gouvernement. Donc, c'est une action qui se mène en synergie avec l'action gouvernementale. Et nous, nous répartissons des tâches. Donc, il y a des zones dans lesquelles nos partenaires humanitaires interviennent, d'autres dans lesquelles le gouvernement intervient. L'important pour nous, c'est de couvrir toute la population qui est touchée par des sinistres.
Monsieur le ministre, parmi les réactions que nous avons reçues, il y en a beaucoup qui se posent la question de savoir mais pourquoi c'est Ocha qui tire la sonnette d'alarme? C'est vrai que vous êtes partenaire, mais le gouvernement congolais semble ne pas prendre la véritable mesure de cette situation.
Je ne pense pas que ce soit Ocha qui tire la sonnette d'alarme. Tout simplement, Ocha a communiqué par rapport à une situation qui est sur le terrain.
Et mais ça, le gouvernement semble ne pas le faire.
Non, le gouvernement était déjà saisi de la question. Nous discutons énormément avec nos partenaires, même avec Ocha, puisque tous les chiffres qu'avance Ocha, ce sont des chiffres, nous menons des évaluations conjointes sur le terrain. Ce sont des chiffres consolidés entre nous et les partenaires humanitaires. Et je crois que si vous posez la question au responsable de Ocha, il n'est pas sans savoir que la semaine prochaine, début de la semaine prochaine, il y avait une mission planifiée entre le gouvernement et tous les partenaires humanitaires. Et c'était à la demande du gouvernement. Le gouvernement a demandé à ce qu'ensemble, avec tous nos partenaires humanitaires, que nous puissions nous rendre au Katanga pour évaluer la situation et surtout voir si l'assistance que nous apportons actuellement est efficace et s'il y a moyen d'améliorer ou s'il y a moyen de porter des rectificatifs.
Alors, on le disait tout à l'heure, Monsieur le Ministre, 55 000 déplacés en 2011, plus de 400 000 de nos jours. Concrètement, qu'est-ce que ces gens reçoivent en termes d'aide? Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Comment c'est planifié tout ça?
En fait, l'assistance que nous apportons, c'est sur 2 volets. Donc, il y a l'assistance à ce que nous appelons l'assistance en vivre et l'assistance en non-vivre. L'assistance en vivre, évidemment, c'est très facile à comprendre. C'est tout ce qui est aide alimentaire que nous apportons auprès de nos populations. Et l'assistance en non-vivre, c'est l'assistance en abri, l'assistance médicale, c'est l'assistance scolaire, puisqu'au fait, dans ces types d'assistance, il y a aussi les réhabilitations des écoles, il y a les réhabilitations des structures de santé, la fourniture en infrastructure médicale, il y a les foires agricoles que nous organisons, le support des activités génératrices de recettes. Donc, c'est les 3 types d'assistance que nous apportons avec nos partenaires.
Alors, Monsieur le Ministre, est-ce que vous partagez l'affirmation selon laquelle on frôle une véritable catastrophe humanitaire au Katanga?
Je ne dis pas qu'on frôle une véritable catastrophe humanitaire.
On est déjà en plein dans une catastrophe.
Pour nous, chaque déplacement de population est considéré par le gouvernement comme une catastrophe. Aujourd'hui, pour nous, qui est 10 000, 20 000 déplacés ou qui est 1 million ou 500 000, pour nous, ce sont des déplacés de trop. C'est toujours une catastrophe humanitaire. Comme vous le savez, aujourd'hui, au niveau du Katanga, c'est vrai que quand on parle de 2011, on voit que la situation a été à 50 000 déplacés et qu'aujourd'hui, on est à près de 400 000 déplacés. On voit très bien que les gens se demandent, mais comment on est passé de 50 000 à 400 000 personnes? Mais il ne faut pas oublier que cette situation n'est pas nouvelle. Pour votre information, en fin d'année 2013, nous avions 402 000 déplacés internes pour la province du Katanga. Donc cette progression, il ne faudrait pas que les gens aient l'impression qu'on est passé tout à coup de 50 à... Non, il y a eu une progression. On est passé de 50 000 à 80 000, de 80 000 à 130 000, et puis ainsi de suite. Mais évidemment, la résurgence de plusieurs groupes armés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, quand on n'avait pas beaucoup de groupes armés, c'est puisque la plupart des zones de conflit étaient concentrées autour de l'axe Mitouaba, Pueto et Manono.
Axe de la mort, comme on l'appelle.
Bon, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, mais en fait, c'était le premier axe où étaient concentrées les hostilités. Et puis après, il y a eu élargissement de bandes et de groupes armés qui sont allés du côté des Malembangoulou, il y a eu du côté de Moba, de Kasenga et du côté de Luboudi, et même du côté des Kambov. Donc c'est l'élargissement de zones de combat qui a entraîné cette augmentation de nombre de déplacés internes.
Raymond Muyumba, vous êtes opérateur politique de l'opposition au Katanga. Comment vous analysez cette situation humanitaire?
Une lecture simple. Si je dois faire une lecture simple, il faut dire que la situation, d'abord historiquement, avant de répondre à votre question humanitaire, il faut dire qu'historiquement, la situation est voulue et entretenue par le pouvoir public national. Parce que je crois qu'il faut qu'on profite de l'occasion pour éclairer l'opinion nationale qu'il y a deux choses ou deux phénomènes. Le phénomène Mai Mai, qui est une création du pouvoir public. Et à ce moment-là, nous nous demandons qu'est-ce qui s'est passé entre le créateur et ses créés. Il faut dire qu'aujourd'hui, pour répondre au ministre qui se demande comment on est passé de 55 000 à 420, il faut lui dire simplement que c'est le pouvoir public qui a sorti Gédéon à prison. Et quand on parle de deux ans, c'est justement les deux ans de la sortie de Gédéon. Qui a sorti Gédéon de la prison? Et c'est ça la situation, n'est-ce pas, au Nord-Katanga. Donc historiquement, il y a les Maïmaï qu'il faut distinguer, une création de l'État. Se sont-ils mal comportés, ou plutôt, j'allais dire, est-ce qu'ils sont mal récompensés pour prendre les armes, les retourner contre la population? Voilà la question que nous nous posons. Deuxièmement, il faut distinguer le phénomène Bakatakatanga. Le phénomène Bakatakatanga, c'est une situation qui est engendrée par ce que nous appelons au Katanga les nombreuses frustrations, tant politiques, économiques, etc. Donc, je crois que si nous partons à distinguer ces deux phénomènes, nous comprendrons facilement que la situation s'est aggravée parce que c'est une situation voulue, entretenue par le pouvoir public, et je précise, national. Parce que si vous voulez que je me justifie, le professeur Kalunga, qui est le député national de PPRD, l'a dit clairement en disant qu'il se rencontre avec Gédéon, qu'il se rencontre avec le chef de Bakatakatanga. Le ministre de l'Intérieur nous l'a dit dans une réunion publique qu'il y avait à peine deux jours, le jour qu'il nous a rencontrés, qu'il a parlé avec Gédéon au téléphone. Donc, je me résume en disant tout simplement que la situation, historiquement, est voulue, entretenue par le pouvoir public.
Et donc, quand vous dites que la situation est voulue, vous supposez que le gouvernement congolais est en train de tuer ses propres fils. Ce n'est quand même pas trop fort, ça?
Ce n'est pas trop fort parce que il faut que la communauté nationale sache ou se rappelle que les Maïmaï ont été créés à l'époque de Moussa Laurent Désiré Kabila. On a distribué les armes, ils ont donc été au service de la République. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les gens qui ont été créés par le pouvoir puissent se retourner contre la population? C'est ça la question que nous posons. Et nous nous disons clairement au Katanga que ces gens sont aigris. Ils se sentent avoir été mal récompensés. Et donc, c'est à ce niveau-là que nous disons, puisque le pouvoir public les rencontre, qu'est-ce qu'ils se disent? Parce que le ministre a parlé tout à l'heure du dialogue, mais le dialogue n'a pas encore eu lieu. Le dialogue que nous voulons, c'est le dialogue de la classe politique katangaise, n'est-ce pas, en face de ceux qui ont pris les armes, pour que nous puissions nous expliquer, vous prenez les armes avec des fétiches, vous allez couper le Katanga avec des fétiches. C'est de ce dialogue-là que nous voulons. Ce n'est pas le dialogue où eux vont parler
avec les Bakatakatan, avec Gédéon, sans nous dire exactement qu'est-ce qu'ils se sont dit.
Alors, comment vous analysez la situation humanitaire? Parce que c'est la conséquence, finalement, de toutes ces bandes armées qui sèment la terreur et la désolation dans les populations.
Oui, je crois que sur la situation humanitaire, j'étais tenté de dire que c'est une situation abandonnée par le pouvoir public, parce que l'impression que ça nous donne, c'est que vous avez un pouvoir public qui a livré la République aux ONG, et le pouvoir vient à la queue. Bon, mais je crois que les excuses que, en tant que citoyen, les excuses que j'ai, c'est que je ne dois pas nier que nous avons en face un pouvoir public affaibli, financièrement, politiquement. Bon, ça ne peut être que la conséquence de ça. Donc, je crois que, même si j'ai demandé au ministre qui est en face, qui m'écoute, son budget est à combien? Le budget global, national, pour son ministère, est à combien pour faire face à toute cette situation? Je crois que, à sa place, moi j'ai pitié. J'ai pitié d'être là où il est, mais la situation c'est là, nous avons un gouvernement affaibli financièrement, politiquement, socialement, et qui a abandonné, n'est-ce pas, la gestion de la République, n'est-ce pas, aux ONG. Voilà la situation telle que c'est aujourd'hui. Mais pour insister à ce que le ministre a dit, comment c'est passé de 55 à 420, eh bien de 55 à 420, par celui qui a sorti Gédéon il y a 2 ans, et celui qui entretient les Bakatakatanga par le chef de file, ne soit bien connu, que le député Kalunga a reconnu à l'Okapi, qui le rencontre, qu'il parle avec, lui, qui parle avec lui. Alors, il se parle de quoi?
Merci.
De la République du Katanga?
Merci. Merci Raymond Muyumba. Je vous prie de ne pas citer les noms des gens qui ne sont pas dans ce débat et qui ne peuvent pas soutenir leur point de vue parce qu'ils risquent de demander des droits de réponse et ça risque d'être très compliqué. Donc, je vous prie de nous en tenir au cadre qui nous réunit ce soir. Ce serait plus pratique. Jean-Jacques Ouondo, vous êtes analyste politique et expert en questions militaires. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC ». Comment vous analysez à cette situation?
Oui, monsieur Louis-Hung, la situation humanitaire alarmante du Katanga n'est pas surprenante pour quiconque suit avec attention l'évolution de la situation générale du pays. Je pense l'avoir alerté dans l'une ou l'autre de mes interventions sur vos antennes. Chaque fois qu'on parlait, on focalisait l'attention sur les Kivu ou l'Ituri. Je ne cessais de dire qu'il faut aussi regarder la situation au Katanga. Donc c'est une situation qui, selon moi, pour des raisons principalement politiques, je dirais même politiciennes, a été sciemment mise sous silence et hors des faisceaux médiatiques pour axer toute l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les provinces du Kivu et dans une certaine mesure sur la province orientale. Cette situation, comme je le dis et le répète souvent, n'est ni plus ni moins une des conséquences de l'échec de la réforme du secteur de la sécurité et de tous les plans DDR, c'est-à-dire désarmement, démobilisation, réinsertion, initiés sans succès jusque-là en RDP. Cet échec a entraîné la liquéfaction de l'autorité de l'État, non seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan socio-économique, car on se rend compte qu'avec cette situation catastrophique humanitaire, l'État est incapable de satisfaire le besoin social de base d'une bonne partie de la population, et on fait recours aux ONG ou à la communauté internationale pour pouvoir essayer d'apporter la solution à cette crise. Et pourtant, pendant que la situation sécuritaire, comme je l'ai dit, dans les deux provinces du Kivu et dans la province orientale était mise en évidence, déjà dès le début de janvier de l'année 2013, les Maïmaï Bakatakatanga ont commencé à poser des actes très sérieux d'insécurité dans les Katanga, aux côtés d'autres milices comme ceux de Gédéon. Et quand aujourd'hui on cite le nombre, par exemple, de 42 000 personnes déplacées, que les gens sont surpris, mais je dis que depuis mai 2013, on avait déjà 354 000 personnes. Ça fait 9 mois que les autorités étaient au courant de ce grand nombre de personnes déplacées, 354 000 personnes, je dis il y a 9 mois, mais rien n'a été fait parce qu'il fallait essayer un peu de donner une image positive du Katanga. Qu'est-ce que je peux dire encore par rapport à cette situation? Et on se rend compte que même dans la même période, on a eu plus de 63 000 Congolais qui étaient réfugiés en Tanzanie et 15 000 en Zambie du fait de ces troubles qui touchaient déjà le Nord Katanga, le Katanga et une partie de, du Sud, Kivu et le Katanga. Et le deuxième aspect de cette situation que je peux qualifier de paradoxe du Katanga tient du contraste présenté par le potentiel économique de cette province. Comme on dit, c'est la vache à lait du Congo, c'est le poumon économique du Congo, mais on sait que l'année passée, selon les statistiques, la province aurait produit plus de 500 000 tonnes, un record jamais obtenu dans la production du cuivre au Congo. Paradoxalement, ce qu'on oublie, déjà en début 2013, cette province était une bonne partie de la population de cette province vivait sous le programme alimentaire mondial. Donc, ce contraste qui cachait quelque chose a poussé les autorités, au lieu de prendre le taureau par les cornes, ils ont essayé de trouver des arrangements internes pour essayer un peu de régler la solution, les choses sur le plan interne. Et pourtant, la situation était plus catastrophique au sud Kivu, par exemple, ou dans la province orientale. Et maintenant que tous les lampions sont éteints au niveau du nord Kivu, et maintenant, tous les, les conséquences ou tous les petits foyers qui étaient mis sous silence se mettent en évidence, ce qui explique en grande partie la situation des réfugiés et qui est vraiment une catastrophe qui prouve que l'autorité a failli à sa mission.
Mais Jean-Jacques Ouando, vous avez suivi le ministre Charles Naweji qui disait tout à l'heure que le gouvernement n'était pas resté silencieux, qu'il avait... apporter de l'aide à toutes ces personnes et donc lui pense que ce n'est pas une situation que le gouvernement a abandonnée.
Oui, mais quand on dit apporter de l'aide dans une situation où qui demande de prendre des mesures d'abord sécuritaires et politiques efficaces, moi je pense que apporter de l'aide c'est comme si entretenir un cancer qui était déjà là et qu'on ne parvenait pas, que le gouvernement n'avait pas pris la ferme décision de pouvoir s'attaquer au mal, à la racine du mal. C'est-à-dire que s'attaquer directement à ces milices, et il y avait plusieurs stratégies de pouvoir, par exemple, cibler, aussi bien sur le plan militaire ou judiciaire, les responsables de ces milices, parce que en les ciblant, les neutralisant, ils allaient provoquer une action psychologique auprès du survivre aussi, auprès de leurs troupes, ce qui n'a pas été fait. On a voulu trouver des arrangements de famille alors que la situation demandait d'autres le recours à d'autres moyens beaucoup plus efficaces.
Monsieur le ministre, il y a Jean-Cy Luzeo qui dit toutes ces personnes nous proviennent d'où et quelle est leur nationalité. Ils sont passés par où pour se retrouver au Katanga car nous avons des barrières dans nos frontières. En fait, là, il relève quand même une question importante. Ces personnes sont-elles identifiées? Sont-elles contrôlées, monsieur le ministre?
Effectivement, toutes ces personnes sont contrôlées. Je tiens tout de suite à apporter une précision. En fait, la différence, c'est que quand on parle des déplacés internes, il s'agit exclusivement de nos compatriotes, donc de Congolais. Dès qu'il s'agit des ressortissants étrangers, on les appelle plus les déplacés internes, mais ce sont des réfugiés. Mais ici, on parle vraiment des déplacés internes. Donc, ce sont nos compatriotes qui quittent un point donné pour des raisons soit sécuritaires, soit des raisons de combat, et qui vont s'installer dans d'autres territoires. Donc il ne s'agit pas de populations qui viennent d'un pays étranger, qui viennent chez nous. Je prends un exemple, quand il y a des combats, par exemple, au niveau de Pweto, les gens quittent Pweto et ils vont, par exemple, ils prennent l'axe de Kasenga, par exemple. Et ce sont ces personnes, dès qu'ils sont enregistrés en dehors de leur milieu d'origine, nous les appelons des déplacés internes. Alors, ici, il est important aussi qu'on puisse bien précisé, au niveau des personnes qui se déplacent à l'intérieur de notre territoire, nous enregistrons, c'est ce qui nous permet d'avoir un nombre, parce que toutes ces personnes sont enregistrées. Mais il y a une autre précision que je voudrais apporter aussi pour que les gens voient la situation. Il ne faudrait pas qu'on imagine qu'il y a 450 ou 420 000 personnes qui sont dans la brousse ou qui sont sur des sites. il faut bien préciser que parmi le 400 000 personnes qui sont des déplacés internes, il n'y a que près de 10% qui sont sur des sites ou ce que nous appelons des camps des déplacés. La plupart, donc le 90%, sont dans les familles d'accueil, puisque vous connaissez très bien le mécanisme légendaire de solidarité nationale auprès de nos communautés congolaises. Donc la plupart, 90% de ces populations, sont recueillies auprès de familles.
Alors, Monsieur le ministre, Raymond Muyumba évoquait le problème du budget. Avez-vous suffisamment de moyens pour ça?
Je pense que la situation humanitaire en République démocratique du Congo, il est aujourd'hui impossible de penser que dans le budget du gouvernement, nous pouvons apporter une assistance qui puisse répondre aux besoins humanitaires. Je vous donne juste un chiffre. Pour l'année 2013, nous avions évalué le besoin humanitaire avec nos partenaires à près de 890 millions de dollars. Vous pouvez bien imaginer que sur un budget de 6 milliards de dollars, si on doit affecter près de 1 milliard uniquement dans l'assistance humanitaire, vous comprendrez bien que nous ne saurions rien faire. Il est tout à fait normal que le moyen dont dispose l'État ne lui permet pas à lui tout seul de faire face à tous ces désastres humanitaires. C'est pour ça que nos partenaires nous apportent un appui. Et aujourd'hui, on estime le même budget pour l'année 2014, puisque pour l'instant, sauf si la situation sécuritaire s'améliore, mais aujourd'hui, il faut estimer le besoin humanitaire à presque près d'un milliard de dollars pour répondre à ces populations, et il n'est pas possible qu'un seul ministère puisse avoir un milliard sur un budget de 6 milliards.
Les évêques du Katanga dénoncent ce qu'ils qualifient de main noire qui manipule et transforme les jeunes en tueurs impitoyables. Ils dénoncent aussi l'attentisme du gouvernement central face au drame katangais et l'approvisionnement en armes et en munitions dont bénéficient les miliciens en province. Ils ont fait savoir dans leur lettre pastorale intitulée « Pleurons avec ceux qui pleurent » rendue publique hier. L'abbé Richard Kazadi, leur porte-parole, fait quelques recommandations au micro de Denis.
Au gouvernement, les évêques recommandent de rendre public les résultats de l'enquête sur l'évasion des Gédéons, qu'on entame aussi une procédure pour déférer Gédéon et Ferdinand Ntandaïmené aux juridictions internationales. Ils recommandent aussi que soient mis fin les conflits armés et de secourir de manière efficace les sinistrés. Tandis qu'à la MONUSCO, on demande que cet organisme puisse prêter main forte aux forces armées de la République démocratique du Congo pour neutraliser les miliciens et de favoriser aussi l'organisation de secours aux personnes sinistrées. Oui, au Maïmaï, au Bakatakatanga, on demande de déposer les armes et qu'ils puissent réintégrer la vie sociale et donner leur contribution au développement de la province. Et à tous les acteurs politiques de soutenir l'élan dynamique du développement de la province, privilégier le dialogue.
Alors là, on est déjà dans la deuxième partie, Monsieur le Ministre. On va parler des solutions avant que je ne donne la parole à Raymond Muyumba et Jean-Jacques Wondo. Pour vous, que faut-il pour remédier efficacement à cette situation?
Je pense que pour remédier à la situation, comme on l'a dit, le drame aujourd'hui humanitaire que nous vivons au Katanga est dû essentiellement aux conflits armés, aux groupes armés qui sévissent au niveau de la province du Katanga. Et comme vous avez suivi tout à l'heure, mon frère Raymond a parlé de problèmes qui existent. Il a cité deux mots. Le premier mot, il a parlé des frustrations. Et il a dit, les gens sont aigris. Mais le vrai problème, c'est qu'il faudrait qu'on nous explique le concept frustration. Les gens sont frustrés sur quoi? Puisque quand il y a une frustration, on doit exprimer cette frustration. Quand quelqu'un est aigri, il doit dire pourquoi il est aigri. Puisque le même discours, moi j'entends ces discours depuis qu'on va au Katanga, dans toutes les réunions, parce qu'il y a eu des réunions entre leaders politiques du Katanga, aussi bien du pouvoir que de l'opposition. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, la solution où on voulait, j'ai même entendu beaucoup de leaders du Katanga dire « Ce sont nos enfants, n'envoyons pas l'armée les décimer. »
Il faut leur parler.
Il faut leur parler. Et beaucoup de leaders disaient « Ces enfants, c'est puisqu'ils n'ont pas d'opportunité, et faute d'opportunité, ils ont choisi la voie des armes. » Donc dès l'instant où on dit, quand on est frustré, on choisit les armes, je ne vois pas où est la responsabilité de l'État, dans l'état d'esprit que peut développer quelqu'un, puisqu'il dit « je suis frustré, je prends les armes ». Si jamais toutes les provinces... Aujourd'hui, si on pouvait nous dire quelles sont les frustrations, si ce sont des frustrations d'ordre social et tenant à la pauvreté, les mêmes frustrations peuvent frapper tous les Congolais à travers toute la République.
Monsieur le ministre, Raymond Muyumba va vous répondre tout à l'heure. Raymond Muyumba, nous prenons d'abord pour vous cette réaction qui nous vient de Liège en Belgique.
Jean Dédier Minengo Mayulu, Liège en Belgique. Pendant que le peuple congolais s'engouffre dans des catastrophes humanitaires de l'est à l'ouest, du nord au sud, la classe politique congolaise reste préoccupé à autre chose. Il s'agit de la création des alliances politiques dont l'objectif final est de se taper une place dans le gouvernement. Il n'est secret pour personne que la RDC est devenue aujourd'hui un État incapable d'exister sans l'assistance de la communauté internationale. Pour mettre fin à cette grande catastrophe nationale, il est impérieux de combattre l'impunité, mais qui malheureusement se trouve aujourd'hui encouragée par des lois d'amnistie. Seul un État institutionnalisé par des règles respectées par tous sera capable d'arrêter ces drames humanitaires dont les dégâts sont incalculables.
Réaction Raymond Muyumba, on est déjà dans la deuxième partie en ce qui concerne les solutions.
Disons que Jean de Dieu soulève beaucoup de problèmes à la fois, mais je prends un aspect lorsqu'il parle des alliances ou lorsqu'il dit mieux que les gens sont préoccupés à autre chose plutôt que la situation qui prévaut et au Nord Kivu et au Katanga. Là, il a raison. Je crois que moi, j'ai dit tout simplement que ceux qui sont préoccupés par les entrées au gouvernement, c'est de leur droit. Mais ce que nous souhaitions, c'est que les gens aient le courage de prendre le vrai habit qui leur convient. Si vous voulez être de la MP, mais allez la journée adhérer. Donc voilà pour la situation de l'opposition politique. Les gens ont été créés par Dieu libres, mais ils doivent avoir un minimum de courage pour qu'on sache où ils sont à la majorité, où ils sont à l'opposition. Je crois que c'est ce que je puis dire à Jean de Dieu. Il a soulevé beaucoup de choses qui sont correctes, mais je ne voudrais pas entrer dans le détail pour tous les points qu'il a soulevés.
Alors, par rapport à la situation humanitaire, comment on peut la résoudre efficacement? Il y a les évêques qui ont fait des propositions concrètes au gouvernement central, au gouvernement provincial. Tout à l'heure, vous parliez d'un vrai dialogue. En quoi devrait-il consister?
D'abord, avant de répondre à ce dialogue-là, je voudrais d'abord répondre au ministre lorsqu'il dit que les notabilités katangaises empêchent parfois l'État de pouvoir mener des actions avec des termes comme « ce sont nos enfants ». Non, je crois que nous devons appeler la communauté nationale de faire extrêmement attention à la situation qui prévaut au Katanga. Il ne s'agit pas du problème de nos enfants. Ici, il s'agit de deux phénomènes, je me répète. Le phénomène Maïmaï-Gédéo, une création de l'État. C'est l'État qui doit nous dire, après avoir distribué des armes au groupe Gédéo et les autres, pourquoi il y a cette situation qui perdure. Et surtout que Gédéo était déjà mis en prison. Qui l'a sorti en prison? C'est ça la responsabilité de l'État. Donc ce n'est pas un problème de ce sont nos enfants, non. Peut-être que les gens y mêlent les sentiments, mais le problème fondamental, c'est une création de l'État. C'est là que nous disons que eux ne sont pas frustrés. Eux sont peut-être aigris. Parce que aigris, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'attendaient à être général, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'attendaient à être ministre. Bon, est-ce que se sont-ils bien récompensés? Voilà le problème qui concerne l'État au point de vue Maïmaï. Parce que la communauté nationale confond les Maïmaï et les Bakatakatan.
Alors, Raymond Muyumba.
C'est ça la situation. Mais quand il parle de...
Raymond Muyumba.
Oui.
Quelles sont les solutions que vous proposez concrètement pour mettre fin à cette situation, à cette catastrophe humanitaire sur le plan politique? Qu'est-ce que vous proposez concrètement?
Donc, sur le plan politique, j'ai entendu le ministre dire qu'on voulait utiliser le bâton et la carotte. Moi, on peut prendre les deux, il n'y a pas de problème. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut cerner, comme il a dit, quelles sont les causes de la situation actuelle. Pourquoi les gens sont aigris? Pour les Maïmaï, c'est le pouvoir public. Pour les Bakatakatang, c'est la situation, n'est-ce pas, de la misère. Alors, qu'est-ce que je propose? La proposition, celle qui est donnée, même quand vous regardez la lettre des évêques, en réalité, ça se résume qu'il faut faire parler les enfants du Katanga. On ne doit pas aller parler avec Gédéo en cache-cache. Personne, aucun Congolais, aucun Katangais n'a le droit de décider seul sur le sort du Katanga. On doit faire, si vous voulez, en termes clairs, une table ronde, un dialogue entre Katangais.
Il y a certaines notabilités du Katanga qui ont fait le tour pratiquement de la province pour sensibiliser toutes ces personnes, et ils ont par exemple demandé que l'État crée des emplois pour permettre à tous ces jeunes de s'occuper. Est-ce une solution durable?
Irung, je vous dis qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. On peut tout simplement résumer à des mises en scène. À des mises en scène. On fait des tours. Bon, on fait des tours inutilement. Vous savez, il y a des choses que je ne peux pas dire à ce micro, parce que nous avons intérêt à ce que nous puissions retrouver les esprits d'unité au Katanga, mais sinon la situation que nous traversons, quand nous allons nous trouver dans une pièce fermée, nous allons nous dire certaines choses.
Merci.
La communauté nationale ne doit pas regarder, entendre des mises en scène qu'on vous présente.
Merci.
Ce sont des mises en scène.
Merci Raymond Muyumba. Jean-Jacques Wondo, nous prenons pour vous cette réaction qui vient de Bandundouville.
Malonga Kubali de Bandundouville, dans la province de Bandundu. La situation du Katanga actuelle est due à la plantaire et la négligence de la part du gouvernement. Toutefois, on bat le fer tant qu'il est chaud. Mais en République démocratique du Congo, on laisse tous les groupes armés s'organiser, se développent pour arriver à un niveau déclaratif qui cause la souffrance à la population. D'où il n'y a pas de la volonté politique au sein des gouvernants congolais.
En passant, Jean-Jacques Wondo, je rappelle qu'au cours de sa conférence hebdomadaire tenue hier à Kinshasa, la MONUSCO a annoncé le déploiement d'un bataillon des casques bleus à Poueto. Qu'est-ce que vous proposez, Jean-Jacques Wondo, comme solution par rapport à cette situation?
D'abord, par rapport à la réaction de l'auditeur du Bandundu, je pense qu'il a résumé les éléments que j'ai avancés, que j'ai évoqués précédemment, en disant que voilà, la situation était là, était déjà catastrophique il y a 9 mois. Mais on a fait semblant de ne rien voir, et puis par après, subitement, on voit que la catastrophe est là. De l'autre côté, M. Muyumba l'a bien dit, il a parlé de mise en scène, mais moi je dirais une certaine hypocrisie dans la gestion de la crise sécuritaire et sociale au Katanga, qui laisse transparaître les frustrations pressenties par plusieurs acteurs politiques originaires ou ressortissants du Katanga. Et ils doivent avoir un langage franc, connaître entre la vérité et ce que certains veulent, et que je pense que cette situation on essaie de prendre à la légère. Du point de vue des pistes de solutions, globalement, on peut d'abord, le ministre a dit que comme c'était un problème familial ou provincial, on a essayé par la voie politique pour pouvoir trouver la solution. Mais il y a un adage qui dit que la guerre est une continuation de la politique par d'autres moyens. D'autant plus que si par la voie politique, les interlocuteurs n'ont pas écouté le message et qu'ils ont repris les armes, je pense que par la voie armée, qui est la seule autorisée de pouvoir utiliser le monopole de violence légitime pour pouvoir d'abord mettre fin à cette situation. Donc il y a une solution qu'on peut prendre sur le plan armé, je l'avais dit, et sur le plan judiciaire aussi. Parce que on a parlé de M. Gédéon qui était en prison pour la sortie pour des raisons dont on ne sait pas. Et aujourd'hui, c'est la même personne qui récidive. Et on peut aussi profiter du nouveau plan DDR, le DDR3, qui est en cours de mise en œuvre pour repartir du bon pied, parce que les plans précédents étaient plutôt fantaisistes. Encourager les activités de promotion des droits de l'homme avec une orientation particulière sur la problématique des recrutements des enfants soldats et leur réinsertion effective à la vie socio-professionnelle et éducative. Parce que environ 2000 enfants de 7 à 17 ans ont été recrutés par ce groupe armé au Katanga depuis octobre 2012. Donc et cela demande aussi de pouvoir prendre aussi des mesures efficaces pour éviter que les enfants soient à la merci ou à la sorte de ces seigneurs de guerre. Il faut mettre en place aussi des mécanismes efficaces d'une politique sociale pragmatique et durable de déplacer des réfugiés dans leur village en décrétant un plan humanitaire d'urgence. Surtout dans le triangle de la mort, des mesures qui visent à aider les populations locales à la reconstruction des communautés détruites par des violences armées, en établissant des bases d'un développement durable dans les zones de retour. C'est très important parce que, voilà, s'il n'y a pas de projet de développement communautaire durable, qui ne s'accompagne pas d'une mise en place des programmes communautaires efficaces de résolution des conflits et de réconciliation, visant à remédier notamment d'autres litiges qui peuvent toucher les litiges fonciers. Il y a aussi le problème d'exploitation artisanale de minerais. Et tout ça doit être vraiment des choses qui doivent être traitées de façon réaliste et pas avec des discours où on fait semblant.
Jean-Jacques Wondo.
Il faut développer des mécanismes de prévention pour éviter qu'on puisse réagir quand la situation
est dégénérée
et des gestions des crises humanitaires par monitoring et surveillance. Voilà un peu les grandes lignes qu'on peut trouver et surtout créer des zones tampons de sécurité où on peut encore rassembler ces gens-là et commencer à éviter que la situation puisse s'étendre dans d'autres zones qui ne sont pas touchées.
Voilà, je rappelle en passant qu'il nous reste moins de 5 minutes pour terminer l'émission. Jean-Jacques Wondo, vous avez évoqué l'aspect judiciaire, mais il y a Jean de Dieu Minengu dont on a suivi la réaction qui est à Liège, en Belgique, qui disait notamment qu'il faut combattre l'impunité, qui malheureusement est encouragée par des lois d'amnistie. Brièvement, je vous en prie.
Ça, c'est la maladie congolaise en pensant que l'amnistie va régler le problème. On voit que depuis 1997, les mêmes personnes qui ont été amnistiées sont à la base de nouveaux conflits. Et je pense qu'à un certain moment, il faut savoir dire non et être dur envers ceux qui bravent les lois nationales. Et je me réjouis déjà du fait que la MONUSCO a pris une décision de pouvoir envoyer un bataillon dans le triangle et prendre en considération la situation sécuritaire au Katanga, ce que nous plaidions déjà il y a quelques mois.
Alors, en guise de conclusion, pour vous, Jean-Jacques Wondo, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cette situation?
C'est une situation à caractère prépondérément et purement politique et politicien, et je pense que c'est à ce niveau-là, et surtout le rôle stratégique et politique de la province du Katanga par rapport aux autorités nationales qui est en jeu, et cette solution ne peut être cette situation ne peut être gérée via des petites messes internes, mais ça doit vraiment être pris au sérieux parce que c'est une région stratégique pour le Congo qui est en jeu.
Merci Jean-Jacques Wondo. Je rappelle que vous êtes analyste politique et expert en questions militaires. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage intitulé « Les armées au Congo-Kinshasa, radioscopie de la force publique au FRDC ». Monsieur le ministre Charles Mundele, vous êtes ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale du gouvernement central. Monsieur le ministre, quel message pouvez-vous adresser à tous ces compatriotes déplacés qui vous suivent en ce moment ?
Je pense que le message que je peux adresser à tous nos compatriotes qui sont touchés par cette crise humanitaire est que le gouvernement ne va pas les oublier. C'est comme je vous ai dit à l'entrée de jeu ici, la semaine prochaine, nous organisons une grande mission d'assistance pour évaluer tous les besoins et apporter au même moment l'assistance. Donc ça va être une mission technique et dans cette mission, nous allons commencer l'assistance de nos populations. Mais je tiens aussi à rassurer toutes nos populations, comme on l'a dit tout à l'heure. Ici, il faut qu'on évite un peu au Congo en disant « le diable, c'est toujours l'autre ». Bon, je ne vais pas commenter tous les détails qu'on fait quand on dit qui a fait les Bakatakatanga, qui a fait le Gédéon et tous les autres, parce que je considère ça comme de la spéculation, je préfère ne pas rentrer dans ces débats. Mais je tiens tout simplement à dire qu'en ce qui concerne le Nord Kivu, il y avait trois pistes de solutions. Elle était diplomatique, soit politique, soit militaire. La solution politique ayant échoué, la diplomatique a donné de bons résultats et la solution militaire a clôturé les événements. Par contre, en ce qui concerne le Katanga, il y a deux solutions. La solution politique ou la solution militaire. Mais pendant que nous exploitons la solution politique, nous prenons des dispositions pour qu'une fois la solution politique ne donne pas de résultats, on passera immédiatement à la solution militaire. Et je tiens à rassurer toutes nos populations que les dispositions sont en train d'être prises sur le plan aussi bien militaire qu'humanitaire.
Merci Monsieur le Ministre. Raymond Muyumba, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous? Vous êtes opérateur politique de l'opposition au Katanga. Raymond Muyumba. Voilà, nous avons malheureusement perdu Raymond Muyumba Maïla. Merci, Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à Guy Maté, Sylvain Matundu, Kéline Kouté et Samuel Kachak qui m'ont aidé à vous présenter cette émission sous la supervision de Julien Nyamouinimwana Chango. Moi, c'est Alain Irung. J'ai coordonné cette émission et je vous l'ai présentée. Vous nous avez suivis. Merci de votre attention. Au revoir.